Chapitre 8.
Je suis rentrée à la ferme et je n'ai rien dit à ma grand-mère de ce qui s'était passé dans la forêt avec Julien. Est-ce que j'en avais honte? Quelque chose en moi ne comprenait pas comment j'avais pu prendre du plaisir à faire l'amour avec un être immonde à l'opposé de toutes mes valeurs sur la féminité et la masculinité. Je m'étais laissée séduire par quelqu'un qui incarnait tout ce que je détestais chez les hommes. La force brutale, la vulgarité, la grossièreté, la bière et les poils partout. Pourtant, en venant à Méruès, j'étais bien décidée à fuir l'ambiguïté des êtres que je fréquentais dans le milieu de la mode et à rencontrer un vrai homme. Peut-être que le destin avait poussé le bouchon un peu loin. Mon idéal masculin, c'était plutôt Bruno, mais visiblement, l'attraction n'était pas réciproque. En tout cas, le destin n'avait rien fait pour transformer en relation intime la rencontre un peu brutale du premier jour. Pourquoi ? Il fallait que je trouve la réponse à cette question, et le meilleur moyen était de la poser à l'intéressé lui-même. Je lui ai donc envoyé un message. « Moi, t'es où ? Lui, tu tombes à pic. Je suis chez le réparateur de bécane. Il a fini de réparer la mienne. Tu m'y rejoins ? C'est 3 rues de l'horloge. Il loue des bécanes. Si ça te dit, on ira faire une petite randonnée. Moi, énorme. J'arrive tout de suite. Je me suis demandé si Bruno n'était pas en train de me draguer. Enfin ! Mais j'allais pas coucher avec tous les gars du village. Je voulais juste le tester. Et surtout avoir quelques éclaircissements sur son père. Je suis donc allée à son magasin de vélo. J'ai réglé la facture de la réparation. Un vélo neuf m'aurait sans doute coûté moins cher, mais il tenait à sa vieille bécane. J'ai loué un vélo, laissé mon ranch sur le parking de la boutique, et nous sommes partis, comme des amoureux, roue dessus, roue dessous. Merveilleuse balade dans les paysages enchanteurs de la région. Parfois les côtes étaient rudes, mais cela nous amusait. Ensuite, les descentes nous grisaient. Nous étions comme des fous, ivres de jeunesse, d'énergie, de joie de vivre. Avec Bruno, tout paraissait léger, tranquille, sain. Mais impossible de lui poser des questions sur son père en pédalant. J'attendais qu'on fasse une pause, ce qui n'a pas manqué d'arriver. Midi approchant, Bruno m'a proposé qu'on déjeune ensemble. Il connaissait une petite auberge loin des touristes. J'ai envoyé un SMS à ma mamie pour la prévenir que je mangeais à l'extérieur. Elle m'a répondu « Ok, ça marche, comme à son habitude ». L'auberge était un peu sur les hauteurs, vers le mont Aigoual, et seuls les randonneurs les plus endurants la fréquentaient. On était en dehors des routes touristiques. Il faisait un peu frais, mais l'endroit avait un charme fou. Un feu crépitait dans la cheminée. Je retrouvais cette bonne odeur du bois qui brûle. Une ambiance rustique et délicieuse. « Ça te plaît ?» m'a demandé Bruno en m'invitant à m'asseoir à une table. « C'est exactement l'endroit où je voulais être avec toi. »« Cool !» À peine assise, j'ai tout de suite lancé les hostilités. « Tu m'avais pas dit que ton père dirigeait la scierie de Méruès ?» Son visage se ferma d'un coup. J'avais appuyé sur le bouton « off ».« C'est pas très important », m'a-t-il répondu après avoir repris ses esprits. « Quand même, avec tes idées sur les arbres, la protection de la forêt, ça doit pas être évident. »« Non, c'est pas évident, mais je m'y suis fait, je le fréquente pas. »« Même quand tu viens ici ?» ?»« Il vit dans son château et moi dans mon gîte, chacun sa life. » Je n'ai pas insisté. J'ai compris que le sujet était très sensible. Le serveur nous a apporté une délicieuse terrine de campagne et cela a fait diversion. Je me suis alors demandé si le riche propriétaire de l'aciérie et du château du coin n'exerçait pas une pression sur les habitants pour qu'ils ne fréquentent pas son fils. Cela aurait expliqué la conversation que j'avais surprise entre ma mamie et lui. C'était plausible, mais une question plus importante me taraudait. La terrine avalée, j'ai tenté ma chance. « Et ta mère ?» Son regard s'est échappé par la fenêtre. J'ai vu une ombre passer sur ses yeux. Un aligot fumant avec une saucisse du pays est arrivé sur notre table. Mes papilles n'en revenaient pas. Toujours mon esprit parisien, je me suis demandé comment, dans un endroit aussi, comment dire sans vexer personne, aussi basique, on pouvait manger aussi bien. Après quelques bouchées, Bruno a répondu à ma question, par une question. Pourquoi tu t'intéresses à ma mère? Parce que je m'intéresse à toi? Qui t'a parlé d'elle? Ta grand-mère? Peu importe. Si tu ne veux pas en parler, je le comprendrai. Parlons d'autre chose. Faisons comme cela, oui. On a continué de savourer notre aligot. Je n'étais pas sûre d'avoir encore faim, mais je me suis laissée tenter par un flan aux myrtilles. Nous étions silencieux, comme si rien de ce que nous voulions nous dire arrivait à sortir. Alors, Bruno a meublé le silence. Comment se passe ton séjour? Bien. Très bien, ai-je répondu. Et nous avons continué à parler de choses et d'autres, de l'avenir de la planète et surtout de celui de l'humanité, dont il ne donnait pas cher. « Nous avons les politiques les plus débiles de l'histoire », a-t-il lâché, très énervé. « Je suis bien d'accord avec toi, mais dis-moi, le fait que je sois dans la mode, ça va pas trop avec tes idées. Franchement, c'est pas important, c'est pas ça qui cause notre perte. Je suis d'accord avec toi. C'est pas en arrêtant les défilés de mode qu'on va sauver la planète. Ça la fait rire. Non, il y a plus grave, je te rassure. Et puis j'imagine que tu suis les traces de ta mère, Delphine. Tu connais ma mère ? Non, mais je sais beaucoup de choses sur elle. Ah bon ? Il avait piqué ma curiosité. Que savait-il sur elle que j'ignorais ? Qu'est-ce que tu pourrais me dire ? L'ai-je questionné. Bruno a jeté un coup d'œil par la fenêtre. De gros nuages commençaient à envahir le ciel. « Si on veut éviter la pluie, il faut y aller maintenant », a-t-il dit en essuyant sa bouche. « Finis ton flan, je vais te montrer quelque chose. » J'étais très intriguée. Que voulait-il me montrer ? J'ai englouti mon flan et nous avons repris nos vélos. Heureusement, la route était maintenant en pente. Après l'incroyable repas que nous venions d'engloutir, ça valait mieux. Je n'ai presque pas eu à pédaler, je me suis laissée aller. C'était un moment délicieux. J'étais avec un garçon civilisé, le paysage du mont Aigual était magnifique, le repas avait été exceptionnel, mais j'étais quand même intriguée par ce que Bruno voulait me montrer. Un peu avant d'arriver à Mérues, nous avons emprunté un sentier forestier. Et très vite, j'ai reconnu les lieux. Nous allions vers la braise, vers la cabane de Julien et surtout vers mon arbre magique. Pourquoi voulait-il me montrer cet arbre si important à mon cœur ? Nous avons posé nos vélos et nous nous sommes approchés de l'inscription. « Tu vois ce qu'il y a écrit sur le tronc ? » m'a-t-il demandé. « Oui, il est écrit « D » et « P » dans un joli cœur », ai-je répondu me demandant où il voulait en venir. « Ah, tu connais cette inscription, tu comprends alors ?» Je comprenais quoi ? J'étais perdue. Qu'est-ce qu'il y avait à comprendre ? Je lui ai dit « Le D, c'est Delphine, ma mère, et le P, c'est Patrick, mon père. » Et puis, tranquillement, comme s'il n'était pas conscient qu'il allait dégoupiller une grenade devant moi, il a dit « Le D, je suis d'accord, c'est Delphine, mais le P, c'est mon père, Paul d'Harcourt. » Le ci-devant patron de la scierie de Mérues. Ils ont eu une liaison ensemble, et tu as devant toi le résultat de leur regrettée rencontre. Et selon ce que mon père m'a raconté, j'ai été conçue au pied de cet arbre. J'ai bien cru que la forêt allait m'engloutir. J'ai essayé de me raccrocher aux branches, mais il n'y avait plus de branches. Plus rien. Un coup de tonnerre a éclaté. Tous les oiseaux se sont envolés d'un coup, des animaux ont poussé des cris aigus. J'ai eu soudain très froid. Mais qu'est-ce que tu dis ? C'est les initiales de mes parents et c'est moi qui ai été conçue ici. C'est ce qu'on m'a toujours raconté. Eh bien, on s'est bien foutu de ta gueule, m'a répondu Bruno. Ta mère a eu une liaison avec mon père, c'est pourquoi ton père l'a plaqué. Ta mère a accouché en secret et mon père s'est marié avec une autre femme qui a accepté de m'élever. Attends, attends, tu veux dire que tu es ? Les mots ne sortaient pas. Que je suis ton frère, exactement serait. Quand tu m'as parlé de la ferme de Ribben et que tu m'as filé ta carte de visite le premier jour, j'ai tout de suite compris. Et tu ne m'as rien dit. Je comptais le faire un jour. Alors c'est pour ça que ma grand-mère ne voulait pas que je t'approche. Ah, tu l'as entendu l'autre jour ? Oui, j'ai surpris votre conversation. Elle ne voulait pas qu'il y ait quelque chose entre nous. J'étais effondrée. Je me sentais la victime d'un complot. Ma grand-mère, ma mamie M, l'être que j'aimais le plus au monde, m'avait trahie. Je n'étais pas convaincue. Je lui ai dit « Mais tu es sûre que ces initiales, c'est celles de ma mère ?» Enfin, de notre mère et celle de ton père ? Sûr et certain. D'ailleurs, l'arbre est protégé. Mon père a interdit de l'abattre. Demande à Julien. Il rasera tout ce qui pousse dans cette forêt, sauf cet arbre. Je suis sur le cul, et j'imagine que pour toi aussi cet arbre est sacré. Pas plus qu'un autre. Mais c'est celui où tu as été conçu ? Pour être abandonné par ma mère 9 mois plus tard. Où est le sacré, d'après toi ? Mon esprit vacillait. J'avais été berné depuis mon enfance, par ma mère, par ma grand-mère. Ce n'était pas l'arbre où j'avais été conçu. Il n'était rien pour moi. Juste la preuve de l'adultère de ma mère. Notre mère. Le mot résonnait dans ma tête comme un écho lointain. J'avais toujours cru que j'étais unique, que ma famille était un puzzle incomplet. Et voilà qu'un morceau manquant me sautait au visage. Pourquoi personne ne m'a rien dit ? Ai-je murmuré. Plus pour moi-même que pour Bruno. Je suis tombée dans les bras de Bruno et j'ai pleuré. J'ai repensé au rêve qui m'avait poussé à venir voir cet arbre et son inscription « Approche-toi, approche-toi de la vérité ». Était-ce ça la vérité ? Bruno m'a serré dans ses bras et nous sommes ainsi restés un contre l'autre un long moment. Je comprenais maintenant pourquoi il avait été si distant et en même temps si attentionné avec moi, comme un petit frère. Et puis, après avoir vidé mon stock de larmes et trempé le t-shirt de Bruno, je me suis écartée de lui, d'un coup. J'ai deux choses à dire à ma grand-mère. J'imagine.
Ça va être sanglant.
Tu crois pas si bien dire ?
Vas-y, mollo, elle est vieille.
Elle est plus solide qu'on le croit. Et j'ai hurlé « Merde, 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 trois fois merde !»
Nous sommes retournés au loueur de vélo et j'ai fait un gros câlin à Bruno.
« On ne se quitte plus !» lui ai-je dit.
« On ne se quitte plus !» m'a-t-il répondu. Je l'ai embrassé fraternellement et j'ai repris mon range. Je ne sais plus quelle émotion était la plus forte à ce moment. Le bonheur d'avoir découvert que j'avais un frère super mignon et super intelligent, même s'il était super bizarre, ou la colère d'avoir été berné par tout le monde. J'ai démarré en trombe, les pneus crissant sur le gravier, direction la ferme, et surtout ma grand-mère. Le paysage défilait, sans que je le voie vraiment, juste des flashs de vert, de gris, de bouts de ciel bleu. J'ai klaxonné un troupeau de vaches, évité de justesse un cycliste, et j'ai ri nerveusement en voyant son visage effaré dans le rétroviseur.
« Désolé, mon pote, » ai-je pensé. Mais aujourd'hui, le monde pouvait bien s'écrouler. J'avais un frère et une grand-mère menteuse.